sacrificios inimaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos.
Sur les chemins de l'exil. Une série documentaire de résonance sonore. Angel, prisonnier politique sous Franco. Angel a été condamné à mort le 16 mars 1950. Par un tribunal militaire de Saragosse, du groupe de maquisards anarchistes auquel il appartenait. Après 55 jours d'attente sans lendemain, Angel Fernandez est gracié. Vincent Auriol, président de la République française, ayant connu le père d'Angel dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, est intervenu personnellement pour l'obtenir. Sa peine de mort est alors commutée à 30 ans de réclusion criminelle. Angel connaît alors le système carcéral franquiste.
Il est évident que les 55 jours passés en cellule de condamné à mort ont changé ma vie, ma manière de penser et de voir les choses. Ma perception des réalités de la vie s'en est trouvée aiguisée et nuancée. Il est illusoire de croire que l'homme puisse vivre sans espoir ou sans donner un sens à sa vie. Mais en prison, tout disparaît. La vie n'existe plus, on ne vit que la mort. Les bourreaux m'ont condamné à 30 ans de mort lente, entre quatre murs. J'en arrive même à envier mes camarades, fusillés par le peloton d'exécution. Cependant, tout n'est pas perdu, car il me reste l'espoir d'une grâce.
Ça, c'est la cour del pénal de Ocaña. Nous étions 2000 et quelques. Et le pénal était prévu pour 400 et quelques personnes. La cour, quand on marchait tous, eh bien, on se croisait pas. Si, on se croisait. On allait d'un côté, d'autres venaient comme ça. Là. Mais bim, bam, bim, bam. Alors voilà l'uniforme que nous avons. L'uniforme, c'est l'uniforme d'été du bagnard. Alors ça, c'est du tissu de jean. C'est pour ça que je ne porterai jamais du jean. Dessous, ça, il n'y a rien. Rien. Alors, on vous donne ça quand vous rentrez. Si vous regardez, ils ne sont pas sur mesure. Et regardez celui-là, s'il est long. Et lui, il est court. Quand vous êtes là, vous n'êtes plus un homme. Vous n'êtes pas une personne. Vous n'êtes rien du tout. Moins que rien. Vous n'avez droit à rien. Des punaises, tout ce que vous voulez, on avait là. Tout. Vous vous sentez oublié de tout le monde. Vous êtes tellement marginal qu'on se demande si vraiment nous sommes des êtres humains. Quatre murs, très haut, le ciel toujours carré, dans la cour. Mais quand vous rentrez dans les cellules ou dans les galeries, à ce qu'on dit, les grandes pièces là, eh bien, le ciel, c'est toujours des barreaux. Vous ne voyez que des barreaux. On voyait le ciel carré quand on venait, quand on sortait à la cour. Le reste, il y avait des barreaux.
Ils gémiront pendant des années en prison en rachetant leurs délits.
Écrivait le psychiatre commandant Antonio Vallejo Nájera, qui tenta de prouver scientifiquement l'infériorité mentale des détenus.
On crevait de faim. Il y avait des prisonniers qui recevaient des colis de temps en temps. Eh bien, celui qui recevait une orange, on croyait que la peau d'orange était jetée. Mais on mangeait tout. La peau d'orange, tout. Et les pépins, tout. Mais même les figues, les queues, là, la figue, eh bien, on mangeait ça. On mangeait tout. Quoi qu'il nous tombe dessus. c'est pas qu'on avait faim, c'est pire qu'à la faim. Puis à la fin, ça, si vous voulez, ça devient une obsession, quoi. Vous savez en quoi je rêvais, moi. Quand j'étais dans le département de l'Ain, eh bien, là-bas, ils faisaient des gros pains. Parce que le boulanger, il faisait le pain une fois par semaine, je crois, comme ça. Eh bien, combien de fois j'ai rêvé à ce gros pain. Alors, je me voyais couper le gros pain. D'ailleurs, on se mettait à plusieurs, des fois, on s'asseyait à plusieurs, et puis on se racontait des trucs comme ça. Et moi, je leur disais, allez, on va manger. On s'asseyait par terre, je prends un gros pain, moi. Je coupe une tranche. Et je faisais comme ça, une tranche, comme ça. Et maintenant, on va mettre du beurre. Voilà. Et puis, on mangeait ça. Les autres me suivaient, ils mangeaient aussi avec moi. Voilà. Ça, c'est la misère. Croyez-moi, ça, c'est la vraie misère.
La politique de la misère tissait des règles, des normes de conduite et des stratégies destinées à détruire l'identité de l'individu. Les prisonniers qui entraient dans la prison connurent le début d'un processus de dépouillement intégral qui commençait par la perte de tout objet personnel et pouvait se terminer par la disparition de toute dignité humaine. Tel était le but, transformer l'humanité en pur néant, vider la personne par le biais de la soumission forcée afin d'obtenir l'absence totale d'elle-même.
Extrait de l'article « L'univers carcéral sur le franquisme » de la revue « Culture et conflits ».
Ma condition d'homme, d'être humain, a disparu. Je suis réduit à l'état de choses, et dépouillé de quelque droit que ce soit, sinon celui d'obéir aveuglément. Dire oui monsieur, non monsieur, sans pouvoir jamais exprimer une opinion.
Je vais vous raconter quelque chose d'Ocaña. D'Ocaña, il y avait la grande cour, que vous avez vue, et une petite cour qui donnait à l'infirmerie, entre autres. Et puis aussi, qui donnait pour aller aux cellules de, j'allais dire, châtiment, c'est-à-dire de punition. Et donc, pour passer d'une cour à l'autre, il fallait passer par un petit couloir. Il y avait une porte en fer, et après une petite porte. Et quand je suis arrivé à Ocaña, je passe par la grande cour, avec les fonctionnaires, bien sûr, qui m'accompagnent, pour aller dans les cellules de quarantaine. Puis je traverse là, le petit couloir. Et en passant le couloir, je vois dans le mur une espèce de niche avec un verre. Je regarde comme ça. Il y avait un peu de paille et il y avait des restes de noiseaux, de moineaux. Je fais ma quarantaine. Quand je ressors, eh bien, je passe de nouveau par là-bas pour aller avec les autres. Et puis je tourne, je regarde, puis je vois ça. Et après, bon, je demande. Je demande à des amis là-bas ce que ça représentait. Alors voilà. Au Cagna, la cour, oui, il y avait des marquesines. Et il y avait beaucoup d'oiseaux, beaucoup de moineaux qui venaient par là-bas. Et les prisonniers, ils faisaient des oiseaux, des ânes. Alors, il y avait des petits moineaux qui tombaient, par exemple, et ils donnaient à manger comme ils pouvaient, hein, avec la bouche, un petit peu d'une miette de pain, comme ça. Là. Et puis, le petit oiseau, il s'habituait à être avec lui. Et quand on était formés comme ça, là, vous aviez plein de petits oiseaux qui venaient se planter sur l'épaule des prisonniers. Et le prisonnier, il donnait un petit peu à manger, bon, comme ça. Bon, il résulte que 5 de ces prisonniers, dont un qui avait un oiseau comme ça là, ils ont suivi partout. Et bien, ils sont condamnés à mort. On le met dans différentes cellules, et puis, ils ne peuvent pas se communiquer, c'est cellules individuelles. Les cellules, ils avaient une petite baie, comme ça, à hauteur, avec des barreaux. Alors, les prisonniers de la cour, les amis, Il donnait un petit mot à l'oiseau. Et l'oiseau s'envolait et il allait à la cellule du prisonnier, il portait le petit mot. Après, bon, il lui donnait une cigarette, enfin la moitié d'une cigarette, autrement c'est trop lourd pour lui. Et il faisait le tour avec une allumette, et il faisait le tour, et l'oiseau lui portait la cigarette, puis restait avec lui. Et après, petit à petit, eh bien, son maître lui a appris à porter, à faire pareil pour les autres. Donc voilà ce qu'il faisait ce petit oiseau. Quand ils ont fusillé ces hommes, le petit oiseau là, tout le monde voulait le soigner. Alors, le petit oiseau, c'était quelque chose de sacré. Et bien, le petit oiseau s'est mis sous la marquesine, mais tout à fait à l'angle en haut. Et il ne voulait pas manger, rien. Alors tout le monde là-bas, bien, il appelait, etc. Il faisait voir, il m'a mangé, tout ça. Et le petit oiseau est mort. Il est mort de chagrin. Et c'était lui, le petit oiseau, qui était dans la niche. Que les prisonniers avaient fait un trou dans le mur et avaient une petite niche. Voilà l'histoire du petit oiseau, du petit moineau.
La caractéristique inaltérable des grands systèmes de répression politique ne réside pas dans la quantité de prisonniers ou de morts, ni dans les procédés d'extermination, mais dans la négation du crime humain, soit en l'effaçant, soit en l'occultant par un langage mystificateur adéquat qui contribue à banaliser la violation des droits de l'homme et qui, sous le franquisme, fut le langage chrétien.
Nous, les prisonniers politiques, représentons une véritable gêne pour les membres de la direction. Nos regards, nos actes et notre solidarité clament l'injustice de notre enfermement. Nous ne sommes pas des délinquants, mais des victimes détenues au mépris de tout droit et de toute justice.
Alors j'ai vécu pendant 16 ans, presque 16 ans, dans un monde marginal, complètement séparé de ce monde que vous avez connu, que vous connaissez. Et croyez-moi que c'est très difficile, c'est très difficile, parce qu'à l'époque, dans les bagnes, eh bien, tout à fait au début, après la fin, ça allait beaucoup mieux quand même. Mais on était complètement isolés, complètement isolés. Il n'y avait pas de radio, pas de journaux, il n'y avait rien. Et puis les gardiens que nous avions à l'époque, en principe, c'était tous des, c'était pas des professionnels, c'est pas des fonctionnaires de prison professionnels, loin de là. C'était des gens qui avaient combattu avec Franco, et après la guerre, ils savaient pas quoi en faire. Et comme les fonctionnaires de prison, la plupart, ils avaient été fusillés, ou ils étaient en prison eux-mêmes, ou ils étaient en exil, on avait placé ces gens-là comme gardiens. Donc ils continuent à être des ennemis. Et donc, ils nous faisaient la vie impossible. Eh bien, c'était des gens qui étaient pratiquement analphabètes. C'était des gens de la Légion ou des gens quelconques, quoi. Il y en avait un qui était, il était de Galicie. Ça se passait à Saragosse. Quand ils nous comptaient, pendant la journée, eh bien, on nous réunissait, on nous faisait former. Et puis, ils nous comptaient de nouveau, voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était évadé ou autre. Eh bien, celui-là, ils nous faisaient former en rang de 5. Je ne sais pas si vous savez qu'il y avait une monnaie en Espagne qu'on appelait el duro. Un duro, c'était 5 pesetas. Voilà. Alors lui, il comptait par 5 parce que c'était des duros. Et quand il arrivait à la fin, il disait 30 duros. Mais si on était plusieurs, 2 ou 3 en plus, il disait 30 duros et 2 pesetas. Mais il ne savait pas combien ça faisait à la fin. Alors, quand il arrivait, il donnait son rapport. Son rapport, il ne savait pas écrire pratiquement. Mais il disait, à telle galerie, eh bien, il y a 30 duros et 2 pesetas. À la galerie 3, eh bien, 20 duros et 1 peseta. Voilà comment il faisait son rapport. Il ne savait compter que de l'argent.
souffrant énormément d'avoir perdu le statut d'être humain, je dois fouiller au fin fond de mon imagination pour trouver encore une raison de vivre. Je me souviens alors de Nietzsche. Celui qui a une raison de vivre saura presque toujours affronter la mort et le désespoir. J'ai placé tous mes espoirs dans les études. J'ai ainsi retrouvé un sens à ma vie et recommencé à envisager un futur.
J'étais juge, j'étais mineur, parce qu'à l'époque, c'était 21 ans. Et en Espagne, 23. Quand j'étais juge, j'avais 20 ans. Eh bien, quand on m'envoyait au bagne de Valencia, tout de suite, j'essayais, on crevait la faim. Hein. Et moi, j'ai toujours aimé étudier. Bon. Enfin, je me suis arrangé et j'ai fait expert comptable par la Chambre de commerce de Valencia. Et après, j'ai fait d'autres études. Mais j'ai donné aussi beaucoup de cours, moi. J'ai enseigné le français, des mathématiques, j'ai toujours aimé beaucoup les mathématiques. Et après, quand on m'envoyait au bagne d'Ocaña, on m'envoyait parce que là-bas, parce que j'avais monté des ateliers de mécanique. Il y avait d'autres ateliers, mais pas de mécanique. Ils avaient les machines-outils, des tours, des fraiseuses et tout. Il n'y avait pas un prisonnier qui soit capable de le faire là. Et un ami à moi, que j'avais connu à Saragosse, qui était là-bas, il lui a dit au directeur de là-bas, il dit, moi je connais quelqu'un, etc. On lui a expliqué, et il m'a fait venir de Valencia à Ocaña. Quand je suis arrivé à Ocaña, moi je lui ai dit au directeur, moi je veux bien vous monter ça, mais laissez-moi réfléchir un peu. Parce que le problème était le suivant. À Ocaña, nous étions presque tous des prisonniers politiques. Alors si je mettais à monter les ateliers de mécanique là, c'est comme si je collaborais avec l'ennemi. À la fin, on s'est réunis quelques-uns de politiques. Et bon, moi, j'aurais fait comprendre que si je montais les ateliers, ça serait très bien. Au lieu de voir tous ces jeunes, s'ils peuvent sortir à l'atelier, eh bien, ça sera mieux qu'ils travaillent, puis ils gagnent un peu d'argent, etc. Et j'ai pu les convaincre totalement quand j'ai dit, je vais demander au directeur de monter une école de formation professionnelle en même temps. On monte les ateliers pour produire, les usines et tout ça, mais en même temps, on monte une école de formation professionnelle. Et bon, on s'est mis d'accord, on a fait comme ça. Alors j'ai eu la chance que j'avais fait l'école industrielle d'ici, parce qu'autrement, moi, tourneur, si, je savais. Hein. La fraiseuse aussi, ça baigne un peu comme ça. Mais c'était surtout pour monter l'atelier. Comment disposer les machines-outils? Alors, j'ai pensé à ce qu'on avait à l'école industrielle. Mentalement, j'ai tout copié. Et là, j'ai eu droit à avoir un petit bureau. Il y avait le bureau du fonctionnaire en bas. Et moi, j'avais mon bureau en haut. Et voilà, j'avais ma table à dessin et tout. Et l'école de formation professionnelle.
Nous, les postérieurs, prisonniers politiques d'après 1939, nous considérons que la prison ne doit pas être qu'un lieu d'enfermement, avec des châtiments et des injustices permanentes. Nous faisons certes partie du monde carcéral, cependant, animés par nos rêves de liberté, nous voulons donner un autre sens à notre destin malgré les chaînes qui nous entravent. Nous réussissons petit à petit à créer une relation différente avec les nouveaux gardiens de prison.
Ici, c'est pas. Si, ça c'est au Cagnan aussi. Voilà. On avait l'autre, c'est là aussi. Tandis qu'on finit par faire partie de la famille. Vous savez, quand on passe tant d'années dans un bagne, même avec les fonctionnaires, il y a une autre relation qui s'établit. À part des fonctionnaires qui sont fanatiques, eh bien, ceux-là, il n'y avait rien à faire. Ceux-là, c'était. C'était droit, et s'ils pouvaient vous faire mal, ils vous le faisaient. Mais autrement, avec les autres, eh bien, on finit par avoir une certaine confiance. Après, moi, j'ai aidé à des fonctionnaires à monter en grade, si vous voulez. Alors, préparer, quand ils préparaient des promotions, etc., qu'ils faisaient là, eh bien, moi, je les aidais un peu, en mathématiques et autre chose. Et comme ça, ils montaient aussi. Et après, ils le rendaient, quoi. Bon. Mais enfin, on a beaucoup souffert.
Que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant, si estirem tots ella...
Vivre dans une cellule de châtiment dans le pénitencier d'Ocaña, c'est se retrouver dans un autre monde. Et le seul fait d'y repenser me donne des frissons. personne ne peut se représenter cette vie sans avoir vécu lui-même dans ce monde d'angoisse, de solitude et de désespoir.
Ici, là, que vous voyez, ce bonhomme, c'est toujours moi. Alors que je vous dise, je venais de sortir d'une cellule, j'avais été puni, 20 jours. Et c'était un jour de la Mercé, qu'ils appellent, c'était le jour de la patronne des prisons. Alors on m'avait avancé, je devais faire 30 jours, et puis j'en ai fait que 20. Pourquoi? Parce qu'on avait essayé de faire une falsification de liberté. Donc j'avais été puni, j'avais d'autres. Et là, c'est le directeur qui vient me voir pour me donner une lettre que j'avais du consulat. C'était une lettre m'annonçant la mort de mon père. Donc je sortais d'une cellule où j'étais puni pendant 20 jours et on m'annonce la mort de mon père. Comment suis-je encore en vie et comment j'ai encore envie de vivre? Je ne sais pas.
C'était Angel, prisonnier politique sous Franco, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.